Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François veut une église libre de toute idéologie. Au cours de sa messe quotidienne, il s'en est pris aux moralistes sans bonté qui ne comprennent rien à la beauté de l'évangile et aux idéologues qui finissent par être des intellectuels sans talent. Une journée d'art, de musique, de culture, de science et de sport au nom de la liberté religieuse, cela s'est passé à Rome. Le thème a été abordé du point de vue des traditions, cultures et foi différentes et de manière interactive, une première pour le Vatican. Il n'y a plus de chrétiens à Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie, au-delà de l'Euphrate, entre Palmyre et la frontière irakienne, la seule église encore à peu près intacte a été détruite. Une violente explosion a rasé l'église et le couvent des Capucins à Deir ez-Zor, en Syrie. La nouvelle est parvenue à l'agence Vatican Fides par l'intermédiaire du père Tony Haddad, vice-provincial de l'ordre pour le Proche-Orient, qui supervise la présence des Capucins au Liban et en Syrie. Les modalités de la destruction ne sont pas claires. Selon certaines reconstructions, des combattants de l'opposition s'étaient cachés dans l'édifice. L'armée régulière aurait alors frappé l'église, provoquant sa destruction. D'autres sources parlent d'une voiture piégée placée à côté de l'édifice. Des photos en tous les cas témoignent des ravages. Devant l'intensification des affrontements entre l'armée et les milices de l'opposition, les deux religieux qui résidaient dans le couvent avaient déjà quitté Deir ez-Zor avec les religieuses de Mère Teresa et les derniers chrétiens présents sur place. La présence des chrétiens y remontait aux années 30. Une autre communauté de capucins qui compte deux religieux existe encore dans le sud de la Syrie. Par ailleurs, selon des informations provenant de l'opposition syrienne, les avions de l'armée régulière auraient bombardé ces jours derniers deux églises orthodoxes syriaques. La liberté religieuse aujourd'hui, c'était le thème d'une rencontre organisée à Rome sous les auspices du Conseil pontifical de la culture, selon le principe et les méthodes des conférences mondiales TED, qui rassemblent des intervenants de talent autour d'une réflexion et qui invitent le public à réagir de manière interactive. Le cardinal Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture, a ouvert cette conférence. Des dizaines d'intervenants de tous horizons ont pris la parole tout au long de la journée de vendredi pour raconter leur expérience de vie ou professionnelle, notamment des chanteurs, des artistes, un jésuite astronome, un rabbin, une princesse. Un événement qui se voulait facile d'accès, sans long discours compliqué, mais encore, fallait-il être parfaitement anglophone. Thomas Chabol.
Les règles du TED étaient simples. Chaque conférencier avait 18 minutes à disposition pour raconter son histoire ou une histoire commune, un fragment de vie ou de pensée. Liberté de contenu donc, mais pas de liberté de médium. Obligation en effet de parler la langue de Shakespeare pour les intervenants. Le public, lui, pouvait bénéficier d'une traduction simultanée en italien dans des écouteurs. Une conférence retransmise en direct sur le site internet du TED et qui a particulièrement plu au père Laurent Mazas, directeur exécutif du Parvis des Gentils, qui était dans le public.
Ce que je trouve bien dans le TED, c'est qu'on peut mettre un chauffeur de taxi avec un philosophe, un théologien, avec un homme engagé, on a vu un augustinien qui travaille à Jos au Nigeria, donc c'est des choses qui sont tout à fait concrètes. Donc ils joignent la réflexion à la dimension concrète. Donc aujourd'hui, dans un monde de communication comme celui dans lequel on est, on sait très bien que les gens n'ont pas l'attention pour suivre des grands discours qui durent une heure, etc. Le fait de limiter à 18 minutes, déjà on peut dire énormément de choses en 18 minutes, être concis et puis utiliser un style qui soit plus direct.
De nombreux prêtres se trouvaient dans l'assistance. Ils ont eu l'occasion d'écouter l'intervention en début de matinée du cardinal Gianfranco Ravasi. Dans son discours, le président du Conseil pontifical pour la culture a mis en garde « La liberté religieuse sera toujours plus menacée si nous ne sommes pas vigilants. Il y a 65% de la population du monde qui vit dans des pays où la restriction de la liberté religieuse est une réalité. C'est pourtant un droit fondamental », a insisté le prélat, et auquel les gouvernements ne devraient jamais être indifférents. Pour le père Mazas, cette conférence a permis également de voir ce qui pouvait être amélioré lors des prochaines rencontres du Parvis des Gentils.
Les interventions donnent à penser, font réfléchir, mais ce n'est pas à proprement parler un dialogue. Le Parvis des Gentils, lui, essaye de mettre ensemble des personnes pour qu'elles dialoguent entre elles. Et, dans un dialogue respectueux et apaisé sur des grands thèmes. Alors, effectivement, le thème de la liberté religieuse est un des thèmes du Parvis des Gentils. La manière d'organiser l'événement est intéressante parce qu'elle est moderne, elle utilise des moyens de technologie, elle permet de rejoindre non pas simplement ceux qui sont là, mais tous ceux qui sont sur la planète, qui veulent se connecter au site pour regarder les interventions, même après. Et nous, dans le Parvis des Gentils aussi, on veut utiliser un peu ce genre d'organisation.
Chaque année, le TED organise une conférence du même type à Monterey en Californie. Et tous les deux ans, elle a lieu dans une autre ville du monde. En 2015, c'est Vancouver au Canada qui accueillera l'événement.
À noter que le site www.ted.com, traduit en 90 langues, reçoit 1,5 million de visites par jour. Dans un tout autre style, les homélies quotidiennes du pape François et son langage simple et direct continuent de susciter un vif intérêt parmi les vaticanistes. Le Saint-Père, qui réside toujours à la maison Sainte-Marthe, a choisi d'inviter les employés du Vatican à assister par petits groupes à tour de rôle à sa messe quotidienne à 7h dans la petite chapelle de la résidence. Une manière de faire connaissance avec ceux qui travaillent au service du siège apostolique et de leur proposer une catéchèse. Ce vendredi matin, devant des employés de la typographie Vatican et de l'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican, le pape a demandé que l'on prie pour que le Seigneur libère l'Église de toute interprétation idéologique et qu'il ouvre son cœur à l'Évangile dans sa simplicité et à son message d'amour. Xavier Sartre.
La parole de Dieu doit être accueillie avec humilité parce qu'il s'agit d'une parole d'amour. La voix de Jésus passe par nos intelligences, mais elle vise les cœurs car Jésus veut nous convertir. Commentant les lectures de la messe ce vendredi matin, le pape François a critiqué les docteurs qui ne répondent que par leur cerveau, les grands idéologues qui coupent la route de l'amour et de la beauté. Quand l'idéologie entre dans l'Église, a-t-il lancé, quand l'idéologie entre dans l'intelligence de l'Évangile, on ne comprend plus rien. Le pontife a fustigé les moralistes sans bonté qui ne comprennent rien à la beauté, et les idéologues qui falsifient l'Évangile et qui finissent par être des intellectuels sans talent. Toute interprétation idéologique, de n'importe quel côté qu'elle vienne, est une falsification de l'Évangile, a-t-il insisté. Les saints, au contraire, sont ceux qui font progresser l'Église. Ils ont pris le chemin de la conversion, de l'humilité, de l'amour, du cœur, le chemin de la beauté. Et le pape François a demandé que l'on prie pour que le Seigneur libère l'Église de toute interprétation idéologique et qu'il ouvre son cœur à l'essentiel de l'Évangile qui nous parle d'amour, qui nous apporte l'amour, qui est si beau et qui nous rend beaux, nous aussi.
Le style du nouveau pape séduit et intrigue. Depuis ses premières interventions, par exemple, ses allusions fréquentes au malin, à Satan, suscitent des interrogations. Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, a-t-il dit, on confesse la mondanité du diable, la mondanité du démon. Il en a parlé lors de sa première messe, devant les cardinaux, le dimanche des rameaux, dans des tweets, dans ses homélies quotidiennes. La question du malin, du combat spirituel revient souvent chez le nouveau pontife. Alors comment expliquer le choix de ces mots? Que disent-ils de la vision du mal chez le pape François? Autant de questions qu'Olivier Bonnel a posées à Don Gérard Longeat, prieur de l'abbaye bénédictine de Ligugé, près de Poitiers.
Je crois que le pape François a choisi surtout de commenter l'Évangile et de nous mettre en face de la réalité de l'Évangile. Donc chaque fois qu'il aborde la question de la proclamation de Jésus-Christ, eh bien il aborde aussi la proclamation de sa victoire sur le mal. Alors le mal se présente évidemment dans son discours sous la forme de ce qui est à vaincre, c'est-à-dire une vie sans Dieu. Ça s'appelle la mondanité, ça s'appelle une vie qui ne confesse pas le Christ. Pour lui, comme il l'a dit en citant Léon Blois, c'est une vie qui confesse la mondanité du diviseur, du diable. Et donc il y a là un discours assez tranché qui met au centre évidemment la croix du Christ. Suivre le Christ jusqu'à l'expérience de la croix, c'est en quelque sorte renoncer à une vie qui se replierait sur elle-même, à une vie donc qui serait enfermée dans ce qu'on peut appeler le contraire de Dieu, quoi, donc le mal. Il y a là évidemment quelque chose qui est au service, et je pense que c'est surtout là une marque de la prédication du pape François, il y a là quelque chose qui est au service de la diffusion de l'amour, de la miséricorde. Au fond, pour lui, le mal, c'est une vie qui vit repliée sur elle-même, sans miséricorde, sans amour. Il semble que c'est là la marque du pape François, là. C'est pas tellement une spiritualité du mal combattue en soi, c'est une spiritualité surtout du Christ, dans l'expérience de sa Pâque sur la croix et qui est vainqueur de tout mal.
Est-ce que l'on n'a pas aujourd'hui dans nos sociétés évacué le problème du mal, y compris au sein même de l'Église, y compris chez les chrétiens?
Dans l'évolution des mentalités réalité, aujourd'hui, on est face à une très grande difficulté qui est celle de la difficulté d'accueillir une présence de Dieu. Donc, toute dimension de transcendance est une dimension difficile à intégrer dans une revendication d'autonomie personnelle, individuelle, qui fait que souvent on s'enferme un peu dans des scénarios autosuffisants. Et cette autosuffisance peut conduire effectivement à une logique de dégradation. Alors évidemment, ça n'enlève rien au bienfait de la découverte de la personne comme un sujet qui peut vraiment parler en son nom propre, mais un sujet qui, s'il oublie son origine, c'est-à-dire de qui il vient, peut s'enfermer effectivement dans des logiques qui n'aboutissent à rien, qui sont des voies sans issue, et pour le coup, c'est évidemment la question de ce qu'on appelle le mal qui intervient. Alors, le mal porté par un certain nombre de termes qui le définissent, c'est-à-dire quand on parle du Satan, du Satan, c'est l'adversaire. Quand on parle du diable, c'est la traduction littérale en hébreu, Satan, c'est l'adversaire. Le diable en grec, le diabolos, c'est le diviseur. Et le daimon, le démon, c'est celui qui tourne boule dans notre esprit et qui fait que nous sommes un peu comme dans une espèce de logique de folie, quoi.
Le véritable combat spirituel aujourd'hui, il est là, dans cette indifférence ?
Selon la tradition chrétienne, selon la tradition monastique aussi, le véritable combat spirituel, oui, se caractérise par une fuite de l'oubli. C'est-à-dire, il s'agit d'être constamment conscient, en quelque sorte, d'une présence essentielle par rapport à laquelle ma vie prend sens et avec laquelle je me dispose pour vivre un amour débordant jusqu'à, d'une certaine manière, sortir de moi-même tout en étant moi-même, me perdre pour me trouver, quoi. Il y a là vraiment un moment de vérité qui, sur le coup, paraît coûteux et qui, en fait, est la plus grande richesse qu'on puisse imaginer.
En quoi la question du mal, du combat spirituel, est-elle édifiante pour la foi chrétienne ?
La question du mal en soi n'est pas édifiante. C'est la question du bien qui est édifiante. C'est la question de la diffusion de l'amour. Par contre, le fait de situer d'une manière très lucide ces deux dimensions dans notre cheminement humain et selon la révélation du Christ, c'est-à-dire sachant que le Christ est de toute manière vainqueur de tout mal et de tout obstacle qui nous empêcherait d'aimer, alors véritablement ça peut être constructif et peut nous permettre de bâtir un monde de paix, un monde d'harmonie, un monde de respect et surtout une relation de miséricorde à l'intérieur de ce monde. Et il me semble que c'est là notre salut, c'est là notre plus grande victoire, notre plus grande richesse et il n'y a pas lieu du tout ni d'en avoir peur, ni de nous retenir de l'annoncer.
Dom Gérard Longeat, prieur de l'abbaye bénédictine de Ligugé, près de Poitiers. Le pape François a reçu en audience ce vendredi matin le président équatorien accompagné des membres de sa suite. Il l'a chaleureusement embrassé en lui demandant des nouvelles de sa mère. Rafael Correa avait déjà fait le déplacement jusqu'à Rome il y a un mois pour assister aux cérémonies marquant le début du nouveau pontificat. Socialiste et catholique fervent, proche de la théologie de la libération, il avait salué avec enthousiasme l'élection d'un pape latino-américain parlant d'événements historiques. Mais il entretient des rapports difficiles avec les évêques. Dans un bref communiqué, le Saint-Siège indique que les entretiens ont permis d'insister sur la contribution importante offerte par l'Église à la société équatorienne et sur l'importance d'un dialogue sincère et permanent entre l'Église et l'État pour affronter les principaux défis actuels. Les deux parties ont souligné que la justice sociale était une priorité, ainsi que les valeurs de la solidarité dans la recherche du bien commun. Il a également été question de l'actualité régionale, du respect des populations indigènes et de leur culture, ainsi que de la protection de l'environnement. La question de l'exploitation des ressources naturelles est en effet très sensible en Équateur, où la forêt amazonienne se réduit au profit d'une agriculture intensive. Au pouvoir depuis 5 ans, dans ce pays de 14 millions d'habitants, dont 85% de catholiques, le président Correa s'en prend régulièrement à l'épiscopat équatorien pour ses prises de position critiques à l'égard de son gouvernement. Il estime et déclare qu'il y a des choses à changer en profondeur dans l'institution catholique. En France, les obsèques de Mgr Yot Plourou ont été célébrées ce vendredi à 10h à l'église Saint-Pierre de Besançon. Homme de communication et d'initiative, Mgr Yot Plourou est décédé le 15 avril à l'âge de 91 ans. Il a été notamment porte-parole de l'épiscopat français, chargé du service de l'opinion publique et président de la CERC, conférence européenne des radios chrétiennes. Historien de formation, il a par ailleurs appartenu à la génération des pionniers de la représentation des églises auprès des institutions européennes. Il a lancé l'établissement de la Comécée, dont il a été le premier secrétaire général, et les premiers contacts avec les responsables européens. Aux Philippines, l'épiscopat joue la carte de la prudence en vue des élections générales du 13 mai. Le vice-président de la Conférence des évêques catholiques a demandé aux clergés et aux groupes ecclésiaux de ne pas soutenir ouvertement des candidats. L'Église, a averti Mgr Socrates et Villegas, ne peut pas prendre parti sur la scène politique. Dans une lettre pastorale, il explique que les responsables de l'Église peuvent guider les électeurs sans cependant donner des consignes de vote. Quand elle prend position sur le plan politique, l'Église s'allie sa mission spirituelle avec la tâche de la mondanité, a-t-il dit. L'Église doit guider, elle ne doit pas dicter. Il y a quelques jours, le leader du groupe charismatique catholique El Shaddai avait lancé une campagne de sensibilisation pour convaincre les Philippins à voter pour les candidats opposés à la loi sur la santé reproductive. Malgré la ferme opposition de l'Église catholique et de nombreuses associations pro-vie, la loi qui autorise la contraception gratuite et l'éducation sexuelle aux Philippines a été approuvée fin 2012 après un débat qui a duré 13 ans. Mais elle a été bloquée il y a un mois par la Cour suprême du pays. Les juges ont en effet estimé qu'il leur fallait d'abord examiner un certain nombre de pétitions populaires avant de permettre son application. L'Église catholique s'est réjouie de ce sursis, mais elle souhaite éviter les dérapages en vue du scrutin du 13 mai et ne pas s'attirer les foules de ce qu'il accuse d'ingérence dans la vie politique. Il y a 8 ans, le 19 avril 2005, le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et proche collaborateur de Jean-Paul II, était élu 265e pape de l'Église catholique. Se présentant comme simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur, il allait placer son pontificat sous le signe de la vérité et de la foi, imposant un style empreint de discrétion et d'humilité. Le 28 février 2013, Benoît XVI, qui vient tout juste de fêter ses 86 ans, renonçait à sa charge de souverain pontife, préférant se retirer dans la solitude et la prière. L'immense héritage spirituel et intellectuel du pape émérite reste encore à approfondir. Écoutez Mgr Salvatore Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation.
Ce qu'il a montré du commencement, c'était vraiment la gratuité de son service. Il a appelé les mêmes mots à peu près dans sa dernière catéchèse, quand il a dit « Alors, j'étais étonné quand on m'a proposé l'élection à successeur de Pierre, et j'ai accepté, mais j'ai accepté avec la gratuité qui vient de la grâce de Dieu. » Alors, je peux dire, le service que Benoît XVI a donné, c'était vraiment au niveau du service, de la gratuité, et je dirais un service qui a enrichi l'Église même de son enseignement. Je pense par exemple à sa première encyclique, Deus Caritas Est, où il va prendre la grande question que nous touche, c'est-à-dire la capacité du christianisme de montrer la rencontre avec une personne, le Christ, rien d'autre. Avant tout, il y a la rencontre avec lui. Aussi, dans la même perspective, l'espérance, c'était la deuxième encyclique du Saint-Père, l'espérance qui est capable de montrer le futur dans une manière différente. Et on ne peut pas oublier aussi les homélies. Tout cela, je dirais, c'est vraiment la richesse pour l'Église qui continuera. Il faudra bien, dans le futur, retourner sur l'enseignement si profond et si clair, dans sa simplicité aussi, du magistère. Et pas seulement cela, mais il faut aussi voir les actes qu'il a accomplis. Toujours l'effort de rendre l'Église dans l'unité du Christ, et même s'il y a des divisions, il a fait du tout pour montrer que la division, ce n'est pas la vocation de l'Église, mais c'est l'unité.
Mgr Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, un dicaster créé par Benoît XVI, était interrogé par Manuela Affigé. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Bonne fin de semaine à tous.